Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Laurie Plisson,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Ce qui frappe sur la couverture du livre, c'est d'abord la majesté de la licorne noire qui se détache sur le ciel rougeoyant avec ses immenses ailes déployées et son unique corne toute droite, tranchante comme une épée qui part du sommet de sa tête. Et l'on voit ensuite le jeune garçon qui la chevauche. De sa main droite levée, jaillit une lumière éclatante et un éclair qui zèbre la robe de sa monture. Bienvenue dans un roman d'aventure et d'apprentissage aux allures de nouvelles sagas fantastiques dont on sait déjà qu'elle sera bientôt adaptée à l'écran. Skandar et le vol de la licorne d'A.F. Steadman est paru en France chez Hachette Roman dans une traduction d'Alice Delarbre et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Annabelle Steadman.
Hello.
Alors disons-le tout de suite, vos licornes à vous, elles sont très loin de l'image de gentilles créatures merveilleuses que beaucoup de gens ont en tête aujourd'hui. On s'en rend compte d'ailleurs dès les premières lignes du livre, dans le prologue qui ouvre votre récit à la page 11.
Le caméraman entend les licornes avant de les voir. Hurlements stridents, grognements assassins, grincements de dents souillées de sang. Le caméraman sent les licornes avant de les voir. Haleine rance, chair en décomposition, puanteur de la mort éternelle. Le caméraman perçoit physiquement la présence des licornes avant de les voir aussi. Le fracas de leurs sabots putrides résonne jusque dans la moelle de ses os et la panique le gagne progressivement. Au point que chacun de ses nerfs, chacune de ses cellules, lui crie de partir en courant. Sauf qu'il a une mission à remplir. Le caméraman regarde les licornes surgir au sommet de la colline. Elles sont 8. 8 démons malveillants qui traversent la prairie au galop, déployant leurs ailes squelettiques pour prendre leur envol. De la fumée noire tourbillonne autour d'elles, tel l'œil d'un cyclone fantomatique. Des coups de tonnerre roulent dans leur sillage et des éclairs pénètrent la profondeur de la terre sous leurs sabots redoutables. 8 cornes spectrales fendent l'air, tandis qu'elles mugissent leurs cris de guerre monstrueux. Les villageois s'époumonnent, certains tentent de s'enfuir, mais il est trop tard, bien trop tard, pour espérer leur échapper. Le caméraman se trouve sur la place du village lorsque la première licorne se pose. Elle piaffe et des étincelles s'échappent de ses naseaux. Chacun de ses râles est une promesse de ravage et de dévastation. Le caméraman continue de filmer, même si ses mains tremblent, il a une mission à remplir. La licorne baisse sa gigantesque tête, pointant sa corne aussi tranchante qu'un rasoir, directement sur l'objectif. Ses yeux injectés de sang croisent ceux du caméraman, qui n'y lit que soif de destruction. Le village est condamné. Et lui aussi. Il a toujours su qu'il ne survivrait pas à la charge de licorne sauvage. Il a simplement l'espoir que les images qu'il vient de tourner pourront atteindre le continent. Parce qu'une fois qu'on a vu une licorne sauvage, on est déjà mort.
Elle fait peur, cette licorne sauvage, Annabelle Steadman. Comment cette image d'une créature dangereuse, donc très très loin d'une créature de conte de fées, s'est-elle imposée ?
J'avais l'idée, j'ai eu l'idée il y a environ 8 ans. Je passais mes examens de droit à l'époque. Et j'ai cette image qui m'a surgi dans l'esprit d'un jeune garçon en train de chevaucher une licorne, et je me suis dit, cette image n'a pas vraiment place dans un conte de fées.
It looks ferocious and powerful.
C'est une image très féroce, très puissante.
And I've never trusted unicorns, really.
Je n'ai jamais vraiment fait confiance aux licornes, pour être honnête.
Because they have this horn on their heads that
Parce
looks
qu'elles
dangerous.
Ont cette corne sur la tête qui m'a l'air, ma foi, très dangereuse.
Pourtant, à l'instar de votre héros qui s'appelle Skandar, les enfants, les adolescents rêvent de chevaucher les licornes et de devenir des cavaliers. Dans votre livre, il y a même chaque année un examen qui permet de désigner ceux et celles qui auront le droit de quitter le continent et d'aller sur l'île afin de faire éclore une licorne et ensuite d'entamer l'apprentissage qui permettra à chacun d'atteindre cet objectif. Il y a tout un rituel que je laisse les lecteurs découvrir. Alors, lorsque commence le roman, l'an dernier, Kenna, qui est la grande sœur du héros Skandar, a raté cet examen. Elle en a gardé un goût un peu amer. Et tous les espoirs de la famille reposent donc sur Skandar, qui du coup a une très grosse pression sur les épaules. En plus, ce n'est pas du tout un garçon sûr de lui, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. En fait, c'est d'abord sur ses faiblesses que vous avez bâti le personnage.
Yes, I think it was important.
Oui, je crois que c'était important pour moi que le personnage principal ne soit pas héroïque et que les enfants puissent s'identifier à Skandar. Je voulais qu'il soit un peu sur la touche, isolé, tout en ayant ce rêve qui lui tenait à cœur. Et c'est tout ce qu'il a, il n'a rien d'autre. Il a ce rêve de devenir cavalier de licorne. Et je voulais construire le personnage de sorte à ce qu'on ait de l'empathie pour lui dès le début. Et il entreprend ce grand voyage de découverte de soi pour grandir.
Alors, sa famille n'a pas beaucoup d'argent. Sa mère est morte depuis quelques années sans qu'il sache vraiment dans quelles circonstances. Et surtout, à l'école, Skandar est seul. Il n'a pas d'amis. On comprend assez vite qu'il a même été un peu harcelé. Ça, c'est extrêmement violent pour un garçon de son âge.
C'est vrai, mais il y a beaucoup de jeunes enfants qui traversent de telles expériences. Mon propre frère s'est fait harceler à l'école et il s'est retrouvé très, très isolé. Et je pense qu'en faisant de Skandar ce jeune garçon qui a tous ses problèmes de manière très réaliste, j'ai bon espoir que les lecteurs puissent se reconnaître en lui et sentir qu'eux aussi peuvent devenir des héros.
Mais ça va très loin parce que pendant l'histoire, Skandar va se faire une bande d'amis et il y a même une phrase dans laquelle vous dites qu'il découvre en quelque sorte l'amitié, comme si c'était quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Ce roman, Amanda Stenman, c'est aussi un roman d'apprentissage de l'amitié.
Oui, pour moi, l'amitié est un thème clé du roman. Il s'agit de trouver, il y a des gens qui vont vous accepter pour ce que vous êtes véritablement. Et Skandar n'a jamais connu ça. Et grâce à ses amis, il apprend à s'aimer beaucoup plus. Oui, tout à fait. C'est un roman d'apprentissage sur l'amitié, sur l'amour et sur la gentillesse.
Et sur l'entraide hein, aussi qui est au cœur du récit. L'idée, c'est que malgré les différences, eh bien, il faut s'unir. L'union fait la force, comme dirait l'autre, qu'il s'agisse d'ailleurs de la relation entre les jeunes cavaliers, mais aussi la relation entre chaque cavalier et sa monture, donc et sa licorne. Comment est-ce que vous pourriez décrire le lien, la relation qui unit Skandar et sa monture, qui s'appelle Atout du Vaurien?
Je voulais que le lien entre les deux soit le plus fort possible. Le genre de lien où ils sont sur une île et la licorne éclot et c'est ce qui est le plus important, ce qui est le plus important pour l'enfant. Comme s'ils faisaient partie de la même personne et qu'ils émanaient de la même âme.
His Dark Materials by Philip Pullman.
Et pour moi, À la croisée des mondes m'a beaucoup inspiré de Philip Pullman dans ce sens pour décrire le lien entre une personne et une créature.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec la primo-romancière britannique A.F. Stedman qui publie « Skandar et le vol de la licorne » chez Hachette Roman, comment on bascule des études de droit à l'écriture romanesque?
J'ai toujours voulu être romancière, écrivaine. J'ai écrit mon premier livre quand j'avais 13 ans. C'était sur des pirates. Et j'ai porté ce rêve à travers toutes mes études à l'école. Je ne savais pas comment m'y prendre pour devenir autrice et ma famille n'avait pas beaucoup d'argent et je cherchais quelque chose de stable. Mais j'ai toujours eu la tête pleine d'histoires. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas heureuse dans le métier d'avocate. Et je me suis dit, si je ne fais pas ça maintenant, je ne le ferai jamais. Et on ne se dit pas, bon, je vais écrire un livre, il faut se lancer. Alors un jour, je me suis assise et j'ai commencé à écrire.
Mais dans le métier d'avocat, la rigueur est une qualité fondamentale pour cette profession-là. Est-ce que vous avez également appliqué cette même rigueur dans votre travail d'écriture, même si le livre, évidemment, est basé sur une imagination sans limite ?
Yes, definitely.
Oui, tout à fait.
When I write
quand
as if
j'écris,
it's my day job, you know, 9 to 5.
J'écris comme si c'était mon boulot, mon métier alimentaire, et ça aide d'avoir des deadlines, des dates butoirs, parce qu'on ne peut pas se permettre de les rater.
So my editors are
pareil
always
au tribunal,
very happy
pareil quand on écrit, donc mon éditrice est toujours très contente,
I always deliver the book on time,
parce que je suis rigoureuse et que je rends ma copie à l'heure.
Alors, dans ce genre de récit fantastique, dans ce genre de saga, en particulier pour les jeunes lecteurs, il y a des codes. Est-ce que vous vous êtes senti tenu de respecter un certain nombre de codes, ou au contraire, l'idée, c'était plutôt de vous en éloigner, de vous en affranchir ?
Quand c'est le premier livre d'une série, je pense que c'est très utile de plutôt respecter les codes, en l'occurrence.
Mais
Skandar n'aime pas exactement l'élu.
He's kind of the opposite of that.
C'est presque même l'opposé de ce personnage. Il y a quelque chose dans sa manière de manier sa magie qui fait qu'il ne s'en rend même pas compte de ses compétences. Donc je pense que j'ai changé un petit peu ça. Et je voulais que le personnage de Skandar ne soit pas seul le héros du roman. Il n'aurait pas réussi à devenir le héros tout seul. Il a besoin de l'aide de ses amis pour y parvenir. Et d'une certaine manière, ça différencie aussi le roman des canons du genre.
Alors la dimension fantastique est en tout cas au cœur du récit. Est-ce que c'est le genre fantastique qui a tout de suite happé la jeune lectrice que vous étiez ?
Yes, definitely. I read lots and lots of books
oui,
when
j'ai beaucoup,
I was younger.
Lu beaucoup quand j'étais plus jeune.
Fantasy was always the one.
Mais les romans fantastiques et ce genre étaient effectivement mon genre de prédilection.
I loved books about dragons.
J'adorais les livres sur les dragons.
And anything with magic or
et tout ce qui
worlds
touchait à la magie ou à d'autres mondes.
Because for me, reading has always been about escaping from.
Car pour moi,
la
lecture permet d'échapper à au quotidien.
I think that's why I wanted to write a book
et c'est pour
in
ça que je voulais écrire dans ce genre littéraire, parce que je me souviens à 10-11 ans que je vivais dans ces mondes fantastiques et que ça m'apportait beaucoup, beaucoup de plaisir.
Alors des enfants qui essaient de domestiquer des créatures fantastiques et qui apprennent la magie, on pense aussi forcément à Harry Potter et J.K. Rowling. Les livres de Rowling ont fait partie justement de votre formation de lectrice et de jeune écrivaine ?
J'ai grandi avec ces livres. Je suis typiquement la génération qui a suivi ce phénomène. Et j'attendais à minuit la sortie des nouveaux volumes. Et ça fait clairement partie de ma personnalité d'autrice et d'écrivaine. Et ces livres sont d'une telle richesse. Pas contentée juste de les lire. Je n'ai pas lu que ça, j'ai lu beaucoup de choses. Ma série préférée, c'était Aragon, de Paolini, Christopher.
But definitely it's influenced a whole
mais clairement, c'est une saga qui a influencé énormément d'auteurs de fantastique.
Et donc, dans Skandar et le vol de la licorne, vous avez créé votre propre monde à vous, Annabelle Steadman. À chaque cavalier dans ce monde est associé à un élément. Donc, il y a le feu, l'eau, la terre et l'air qui correspond aux quatre zones de l'île sur laquelle se déroule l'essentiel de l'action. Quatre zones délimitées par des lignes de faille, avec au milieu le nid, C'est l'endroit où les jeunes cavaliers reçoivent leur formation. Alors, il y a les camarades de classe, il y a les professeurs, les instructeurs. Et avec l'aide de Sally Korn, chacun apprend à développer de la magie offensive et défensive, liée à chacun des éléments. Alors, le sien, pour chaque cavalier, est prépondérant, mais il est bon, évidemment, de maîtriser les autres. Et cela donne, dans votre récit, des passages épiques quand vous racontez les joutes sportives, qui sont de véritables combats singuliers jusque dans les airs. Nous sommes à la page 25 du livre.
Les licornes se bousculaient dans les airs pour obtenir la meilleure position. Les armures métalliques s'entrechoquaient et s'accrochaient. Elles cherchaient à blesser leurs opposants et la pointe de leurs cornes scintillait au soleil. À présent qu'elles avaient quitté la terre ferme, la magie des éléments illuminait le ciel. Boules de feu, tempêtes de poussière, éclairs, murs d'eau. Le combat aérien faisait rage sur fond de nuages blancs cotonneux. Les paumes droites des cavaliers brillaient d'une lumière surnaturelle, suscitée par leur pouvoir, alors qu'ils s'efforçaient de progresser, malgré les obstacles. Ce n'était pas joli à voir. Les licornes échangeaient des ruades, déchiquetant la chair des flancs de leurs adversaires à coups de dents, n'hésitant pas à détruire leurs concurrents les plus proches. 3 minutes après le coup de sifflet initial, la caméra filma une licorne et sa cavalière, les cheveux en feu, un bras qui pendait, inerte, dévalant vers le sol, où elles s'écrasèrent, un panache de fumée s'échappant d'une aile et de la tête blonde de la concurrente. Le commentateur gémit. Il s'agissait d'Hilary Winters sur Lily Lafuté.
Lily Lafuté qui quitte donc la compétition pour cette année. Ah, il semblerait que la cavalière ait un bras cassé et de vilaines brûlures. Quant à Lily, elle s'est blessée à l'aile.
Il y a beaucoup de descriptions dans votre style. Vous avez vraiment un style extrêmement visuel, A.F. Stedman. On imagine des images de films ou de films d'animation quand on parcourt vos chapitres. Quand vous écrivez, ces images-là, elles vous viennent tout de suite, instantanément, sous votre plume, ou bien vous les construisez, vous les composez au fur et à mesure?
I do see it straight away.
Je vois tout de suite, je visualise tout de suite ces images.
When I can't see the scene playing out in my mind.
Si je ne vois pas la scène se dérouler dans mon esprit,
I do struggle to write it.
J'ai du mal à l'écrire.
And often when I'm having I'm solving plot problems.
Et souvent quand je résous des éléments de l'intrigue,
it's that moment before I go to sleep and it's playing in my mind.
C'est le moment où avant de m'endormir tout se déroule de nouveau dans mon esprit.
À propos d'images, il va y avoir une adaptation du livre à l'écran, hein, puisque Sony Pictures en a acquis les droits. Alors, vous n'êtes pas comédienne, sauf erreur de ma part, Annabelle Stedman, mais si vous deviez incarner à l'écran un de vos personnages, lequel choisiriez-vous? On oublie les questions d'âge et de genre.
I think I would love to play Asper McGrath, who she's the Commodore.
J'adorerais jouer la Commodore McGrath de Lille.
Partly because she has red hair as well.
D'abord parce qu'elle est rousse, elle aussi.
But also, I love her as a character because she's
et
very strong.
Et puis parce que j'adore ce personnage parce qu'elle est forte.
And powerful.
Et elle est puissante.
And she has an interesting journey in the book.
Et
as well.
Elle a un périple, un voyage qui est très intéressant dans le roman.
Alors je suis surpris parce que vous disiez au départ que le personnage de Skandar était intéressant parce qu'il avait des faiblesses. Et là, vous venez de me dire que vous choisiriez un personnage fort, que vous préférez quelqu'un donc qui a l'air, en tout cas, parce que j'imagine que son personnage va évoluer. Personnage très fort. Vous préférez jouer les forts que les faibles, finalement?
I think so, mainly because I think my acting skills are not up to playing.
Parce que mes talents d'actrice ne seraient pas suffisants pour jouer un personnage aussi complexe que celui de Skandar.
Moi, je pensais qu'à votre place, vous auriez choisi Bobby. Parce que Bobby, c'est un personnage féminin extrêmement intéressant, extrêmement complexe, et pour le coup, qui manque beaucoup de confiance en lui. Vous pouvez nous présenter Bobby?
Yeah, I think Bobby is the kind of
Bobby,
person.
C'est le genre de personne
who is not like me at all.
Qui est très éloigné de moi.
But that's why I enjoy writing her so much.
C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé écrire ce personnage.
And I think she is one of my favorite characters in the book.
C'est un de mes personnages préférés dans
aussi.
Le roman.
And she is so important for Skandar as a friend
elle
as well.
Elle est très très importante pour Skandar. Son amitié est essentielle.
She's the kind of person that you want to be dragging you along.
C'est le genre de personne dont on veut qu'elle vous prenne par la main, qu'elle vous donne confiance en vous.
And just telling everyone what to do and being rude
et qui dit
to them.
À tout le monde ce qu'elle doit faire de manière très autoritaire et pas toujours très sympathique.
Et avec quelle licorne aimeriez-vous être associée?
I really love Scoundrel's Luck, Skandar's Unicorn.
J'aime beaucoup la licorne de Skandar, à tout du vaurien.
I think because he is cheeky.
Parce qu'il est un petit peu, elle est un petit peu insolente.
But also he's got a kind of wild side to him.
Et puis parce qu'elle est un peu sauvage,
and I've also indomptable. Really, always really loved black horses.
Et j'ai toujours beaucoup aimé les chevaux noirs.
So that's partly why I chose that color for Skandar.
C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur de robe pour Skandar.
Alors ce roman, A.F. Tenman, c'est le premier tome d'une saga. Vous allez en écrire combien de tomes? Est-ce que c'est déjà clair dans votre tête?
So the plan is for 5 books.
L'idée c'est d'en écrire 5 dans cette série.
I've finished the second one.
Je viens de terminer l'écriture du deuxième.
And I'll be writing the third one over the summer.
Je vais écrire le troisième au cours de l'été.
Et vous savez déjà comment la saga va se terminer?
I've always known a lot of the last book.
J'ai toujours su la fin.
And now I'm thinking about book 3.
Et là, je suis en train de réfléchir sur le troisième. Et troisième et quatrième sont en train de s'articuler plus clairement dans mon esprit.
But when we sent it to the publishers,
et quand on les envoie aux éditeurs, j'envoie aussi l'intrigue des 5 romans.
Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire, vous avez besoin de savoir très précisément où vous allez. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser les personnages vous bousculer.
I think both. Sometimes I know exactly what's going to
happen. Je sais exactement ce qui va se passer.
And sometimes I let them do their
own thing. Et parfois je laisse les personnages prendre un peu les rênes.
I don't like writing down the plan or the plot.
Je n'aime pas trop
paper.
Écrire le plan, l'intrigue sur le papier.
So I leave a lot of it in my head.
L'habitude de laisser les choses en suspens dans mon esprit et suivre leur cours.
Et pour l'adaptation cinéma, est-ce que vous accepterez d'être surprise ou au contraire, est-ce que vous voulez que les films soient extrêmement fidèles au roman? Quelle liberté vont avoir les réalisateurs et les acteurs?
I've actually read the first draft of the script.
J'ai lu la première mouture du scénario déjà.
And I was surprised because
étonnée
it was very similar to the book,
parce que c'était très proche du livre,
great.
Ce qui était super.
But there were parts of it
mais il y avait
in the way that the world was imagined,
parties kind of concernant la manière dont le monde était pensé,
on my imagination.
Qui se basaient sur ce que j'avais imaginé moi.
And I loved it. I really enjoyed
et
seeing that from someone else's
voir
perspective.
La perspective de quelqu'un d'autre sur l'histoire.
Il faut commencer par lire le livre ou par voir le film?
Read the book first.
Lisez le livre en premier.
J'en étais sûr. Merci beaucoup, A.F. Tenman. Skandar et le vol de la licorne est paru chez Hachette Roman. Et merci à Fabienne Gondran qui a traduit vos propos. Merci beaucoup.
Merci.
Viens dans mon jogo, mon legging. Viens dans mon jogo, mon legging. Viens dans mon short et mon crop top. Dans le club, tu deviens fucked up. Tu voudrais bien que je t'adopte, boy. Tu peux bien toquer à d'autres portes. On t'a déjà vu venir de loin. Tu nous approches en mode grise glace. J'ai mis la combi qui moule bien. Je passe devant toi, fais bien de la place. Bouge. Ta maman t'a jamais appris à me siffler. Bouge. Ma maman m'a appris que si tu me siffles, je peux te gifler. Cherche pas à comprendre, je suis tranquille. Viens dans mon jogo, mon legging.
Bien dans ma chipou dans mes jeans, bien dans ma robe et mon baudi. J'ai rien à foutre de ton estime. Tu veux me toucher, fais de l'escrime. Tu peux te toucher dans tes drips. Bien dans mon jogo, mon liquide. Cherche pas à comprendre, je suis tranquille dans mon
Jogo, Alma Mango, chanson sur mesure dans VMDN sur RFI, extrait de son premier album Nuit Blanche qui est sorti aujourd'hui.
Un café gourmand s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Marjorie Bertin, Fanny Blechner et Sébastien Gédor. Bonjour à tous les trois.
Bonjour,
bonjour
Jean-François.
Jean-François. Alors Fanny, les milliardistes de notre café gourmand sont recouvertes de bougies aujourd'hui. À quelques jours près, cela aurait pu être pour vous.
Oui. Hein.
On vous a d'ailleurs souhaité votre anniversaire cette semaine.
Et
mais aujourd'hui, on va le souhaiter à la petite Céleste de Paris 16e, son premier anniversaire. On l'embrasse. Et on va aussi souffler les bougies d'une autre star. Alors ce n'est pas Marjorie non plus.
Non, c'est une autre idole des enfants, Chantal Goya, qui, ça ne nous rajeunit pas, fête ses 80 ans aujourd'hui, mais elle n'a pas pris une ride auprès de ses fans.
Alors on partira à Versailles avec vous, Marjorie, alors pas à l'intérieur du château des rois de France, mais dans les écuries.
Ah mais elles sont pas moins splendides, hein, et qui sait, peut-être un brin plus populaire aussi. C'est là que j'ai assisté à l'impromptu de Versailles, du grand Molière, c'est son anniversaire aussi, il fête ses 400 ans. C'est populaire, enlevé et joyeux, à l'image de ce festival, le mois Molière, qui lui fête sa 26e édition.
Mais pour commencer, on va tourner nos oreilles vers le Sénégal. On prend le bateau, la chaloupe, comme l'appellent les Sénégalais Sébastien. Direction Gorée, à 20 minutes au large de Dakar. L'île, lieu de mémoire de la traite négrière, est aussi un des hauts lieux de la Biennale Off d'art contemporain de Dakar, bien sûr.
Oui, à Gorée, cette année, il y a 16 lieux d'exposition. Jean-François, c'est plus que lors des éditions précédentes, beaucoup plus. Et un thème revient chez plusieurs artistes, l'environnement.
Alors on commence cette visite de Gorée battue par les vents, par le fort de l'île qui abrite le musée historique.
Et juste derrière ce musée se trouve l'installation de l'artiste photographe Fabrice Montero.
C'est un grand mur de 3 mètres de haut sur lequel est inscrit « On ne peut pas cueillir toute la richesse du monde ». Et de l'autre côté de ce mur s'accumulent des déchets et des gilets de sauvetage. C'est une réflexion que je me suis faite par rapport à la phrase d'un homme politique dans les années 80 qui disait « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Ma réponse à ça, c'était de dire « Mais si on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, on ne peut pas plus cueillir toute la richesse du monde sans que cela implique certaines responsabilités ». Et aujourd'hui, on voit bien, on le vit de plus en plus, la question des réfugiés ou la question climatique, finalement, on se rend compte que tout est lié et tout est la résultante d'une certaine façon de vivre le monde, de créer un monde qui soit finalement axé uniquement sur le profit.
La consommation des richesses à outrance, des ressources.
Exactement. Moi, je vois dans un pays comme le Sénégal, où j'habite depuis 10 ans, que la situation est de plus en plus grave. Il fait de plus en plus chaud, de plus en plus tôt. Les ressources halieutiques, qui sont la ressource première de protéines pour les Sénégalais et les Africains de l'Afrique de l'Ouest, est en train de se tarir sérieusement. Si on ne prend pas des dispositions radicales qui sont axées sur une considération de l'autre, le fait qu'on ait une humanité sur une toute petite planète et qu'il va falloir qu'on apprenne la solidarité si on veut survivre à ce qui est en train de se passer sous nos yeux.
Et même préoccupation, Sébastien, l'environnement, l'exil, chez deux autres artistes du fort de Gorée.
Oui, alors là, on va rentrer dans le fort lui-même avec Misha Sanders, originaire des Pays-Bas, et Philippe Putzer d'Allemagne. Ils ont installé de grands poteaux de bois partiellement recouverts d'une mystérieuse matière brillante. C'est assez étonnant, ils vont nous expliquer. C'est dans la cour du musée historique de Gorée.
Ce sont des morceaux de bois qui proviennent des régions sud du Sénégal, donc de forêts qui ont été où il y a eu des grosses découpes.
Illégales.
En partie, je pense. Et donc ce qui brille, ce sont des couvertures de survie.
L'installation montre un lien entre les ressources qui disparaissent et les migrants qui sont contraints de partir au péril de leur vie.
Ouais, ça c'est une bonne description, je pense. Ça montre vraiment la fragilité du corps humain, peut-être aussi.
Comment est-ce que vous avez trouvé le bois?
Alors finalement, on a trouvé le bois à Dakar. Il récupère tous ces fragments de ce qui reste de ces zones tropicales. C'est simplement utilisé soit comme bois à brûler, pour tout ce qui est la cuisson dans la rue, voilà. Ou alors même certains bois sont utilisés aussi pour faire des pirogues, donc ce qui fait un lien aussi au bateau et au grand départ. Voilà.
Alors quittons le fort de Gorée à présent et enfonçons-nous dans les ruelles en terre rouge de l'île et allons visiter le centre culturel Joseph Diaye, Sébastien, avec une photographe devenue peintre.
Oui, elle s'appelle Hélène Jaillet et elle présente l'exposition Écosystème dans la salle au premier étage du centre culturel. Il y a des tableaux au mur, jusque-là tout est normal, me direz-vous. Mais dans cette salle, il y a aussi un petit jardin au centre de la pièce.
J'ai créé ce jardin avec Alioune Lalune, l'ami de la nature, qui est un des jardiniers municipaux de l'île de Gorée. Et donc on a passé 2 semaines à cueillir tous les soirs. Tout ce que je donnais ma shopping list en images, parce qu'il sait ni lire ni écrire. Et donc on a créé un petit... Pour moi c'est une renaissance aussi un peu. Et puis je suis fascinée par la nature, il y a pas... C'est notre vie quoi.
Cette nature qu'on retrouve donc aussi sur les tableaux d'Hélène Jaillet, des personnages formés de points reliés entre eux dans des paysages pour montrer que nous sommes reliés justement, connectés aux autres êtres vivants. Hélène Jaillet.
L'idée c'était de vraiment faire prendre conscience, on est plein à être conscient de ça, mais qu'on est un écosystème, qu'on a un lien cosmique tous ensemble, qu'on a tous les mêmes atomes d'étoiles. On vient tous de la même explosion, donc on devrait être en symbiose, on devrait être un vrai écosystème. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi on en est là. Et donc j'aimerais bien qu'on y repense, quoi. Surtout, on constate quand même que c'est les femmes et les enfants, mais surtout les femmes qui sont les premières victimes du changement climatique et des conséquences très très graves. Donc je me bagarre aussi pour ça, quoi.
Effectivement, on voit les femmes sur les tableaux qui cultivent la terre, qui portent l'eau, les enfants qui portent l'eau.
Ouais, ouais. Ben, c'est toujours les mêmes personnes qui font les labeurs et qui sont les plus en danger, qui sont les moins bien nourries, traitées et respectées, quoi. Et après, par exemple, il y a des œuvres, qui, notamment le grand tableau où il y a 3 femmes qui savent faire dans les champs. C'était aussi un hommage à tous les maraîchers qu'il y avait autour de Dakar. On pouvait manger des légumes frais. Et en fait, c'est en train de disparaître.
Sous des villes nouvelles ou des constructions.
Ouais, des villes nouvelles, des espèces de grands stadiums qui servent à rien, qui vont servir 2 fois, des autoroutes. Bon, le train, c'est bien, mais c'est quand même aussi un vrai problème de voir aussi la place de l'Indépendance où ils ont enlevé tous les arbres. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de pluie. Et ici, ils le savent très bien sur l'île de Gorée. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais s'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau et on ne peut pas vivre.
Constat pas très optimiste, vous en conviendrez, autour de cette table, mais ô combien réaliste, surtout quand il est l'heure de reprendre le bateau vers Dakar, nimbé d'un tenace nuage de pollution.
Effectivement, la Biennale Off de Dakar au musée de l'île de Gorée, c'est jusqu'au 21 juin, et l'exposition d'Hélène Jaillet, c'est donc au centre culturel Joseph Diaye jusqu'au 31 juillet. Merci Sébastien. C'est l'heure de la Duchesse Marjorie. Après Tartuffe, vous continuez de fêter le 400e anniversaire de Molière, mais vous avez choisi un ballet de Lully pour nous parler d'un événement où on célèbre le dramaturge, évidemment, la 26e édition du Mois Molière. Ça se passe évidemment à Versailles.
Et oui, parce que Lully, comme Molière, a été l'un des artistes phares du règne de Louis XIV. Molière et Lully ont même créé ensemble la première comédie-ballet de l'histoire. Je ne sais pas si vous le savez, ça s'appelle Les Fâcheux et on en parlera au juillet. Mais pour l'instant, donc, on célèbre l'artiste favori du Roi Soleil à Versailles. La ville fait les choses en grand. 330 représentations, 1000 comédiens et musiciens, 60 lieux et 100 000 spectateurs pour ce qui se veut une grande fête populaire, d'après le maire de Versailles, François de Mazières.
C'est un festival où l'on peut aller facilement, donc déjà l'accès en termes de coût est aisé. Ici, dans ce lieu magique, eh bien, on retient sa place par internet et ça coûte 2 euros. Et c'est vraiment une programmation avec des troupes assez exceptionnels qui ont vraiment l'esprit de la troupe de Molière, ces esprits généreux. Mais c'est vraiment ça qui guide les choix des spectacles que l'on fait ici aux grandes écuries.
Mais alors cet esprit de la troupe de Molière, intelligent mais accessible tout en étant hilarant, j'ai pu le rencontrer très vite en regardant en plein air dans les anciennes écuries du château l'impromptu de Versailles. Alors, elle était vraiment au bon endroit. Une comédie que Molière écrivit pour Louis XIV et sa cour en 8 jours. Les comédiens jouent leur propre rôle et s'amusent de tout ce que leur métier d'acteur peut leur offrir comme facétie.
Alors vous avez quelques exemples à nous donner ?
Oui, bah c'est des exemples aussi qu'on peut très bien faire à la radio. Fanny et moi, on s'en prive pas, comme imiter des collègues, faire semblant d'être persécuté par une mouche ou mimer des scènes. En crinoline et en perruque ici, les comédiens d'Anthony Magnier, le metteur en scène, grommelaient leurs textes avec bonheur.
Ça, effectivement, c'est pas commun. Marjorie, j'ai jamais entendu un Molière comme celui-ci, visiblement. Toute la pièce, elle est comme ça ?
Ah non, rassurez-vous, mais c'est vrai que ça rapproche le maître de nous. C'est le pari réussi d'Antoine Magnier. Il est acteur pour des spectacles du mois Molière depuis 1998 et il y met en scène des spectacles depuis 10 ans. Celui-ci, eh bien, figurez-vous que comme Molière, il l'a fait en 8 jours avec des comédiens et des chefs de troupe qui sont en résidence à Versailles.
On joue en plein air, ça c'est déjà c'est très particulier. Ça force à la précision, à l'intensité. On joue devant ce gradin, là on est dans la cour des grandes écuries, qui est très très large. On est obligé d'ouvrir énormément le jeu et d'aller les chercher, parce que le spectateur versaillais, il est exigeant. Et en même temps, il a quelque chose de bon enfant, de généreux. Et quand on est généreux sur le plateau, il nous le rend au centuple.
Puis Molière, c'est aussi la liberté. Et là, on a vraiment un souffle de liberté, vous l'avez entendu, très agréable. Pour certaines actrices de cet impromptu, comme la sémillante Marie Gracq.
Effectivement, il y en a qui ont des univers très visuels. Moi, je suis peut-être moins comme ça, mais j'ai très envie de le faire et j'y suis allée volontiers, en confiance. Et c'est ça qui était magique sur ce projet, c'est que la bienveillance était telle que finalement, des gens peut-être qui ont une façon de jouer moins extravertie se sont lancés et tout était possible. Anthony nous laissait proposer tout ce qu'on avait envie. Il disait après on va gommer, hein. Après on va un petit peu faire le tri dans tout ça. Mais voilà, et donc forcément quand on en voit certains qui vont à fond, bah, ça pousse et puis l'énergie est communicative, la bonne humeur est communicative et cette troupe est géniale.
Bon, alors on est vraiment dans l'esprit de Molière, aussi très commedia dell'arte, avec cette générosité des comédiens enflammés.
Et côté spectateur, Marjorie, comment est l'ambiance ?
Mais elle est très joyeuse. Alors il y a énormément de familles. J'ai vu des enfants qui savaient à peine marcher, des personnes âgées qui savaient plus trop marcher, des gens de tous les milieux. Alors il y en a qui viennent une heure ou deux avant le spectacle pour faire la fête. Avant la fête, m'a dit un spectateur qui accompagnait son papa de 90 ans. Du côté des plus jeunes, j'ai rencontré deux sœurs trop mignonnes, Constance et Alix, 11 et 8 ans, et elles m'ont expliqué ce qui leur plaît au théâtre.
Bah, c'est beau et c'est pas comme des films, parce que par exemple, c'est plus en vrai, donc c'est plutôt impressionnant.
Je trouve aussi il n'y a pas d'effets spéciaux, donc ça demande de l'imagination. Et c'est particulièrement bien quand les acteurs sont très pros, on va dire.
Et là, ce soir, ils étaient très pros ?
Oui.
Ah bon, on est rassurés.
Heureusement pour eux.
Elles ont déjà leur esprit critique, ces jeunes filles.
Ah bah oui, et puis le mois Molière, c'est vraiment une façon de transmettre aussi le goût du théâtre aux enfants, d'après une maman que j'ai interrogée.
Là, ça fait 5-6 ans qu'on y va vraiment régulièrement.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce mois Molière ?
Je trouve ça formidable, en fait, de permettre d'accéder à des pièces de théâtre d'une grande qualité, de façon populaire comme ça. Voilà, c'est gratuit ou quasiment, et on a la chance d'avoir de très beaux spectacles. On va beaucoup voir Molière, parce que en fait, on y va souvent avec les enfants, et c'est vrai que y a souvent de très belles pièces classiques qui permettent de leur faire découvrir les pièces de Molière, les classiques ou moins, comme ce soir, des pièces moins connues. mais on va aussi voir parfois d'autres auteurs.
Mais à l'affiche, il n'y a pas que des pièces de Molière. Oh, quelles sont les pièces des autres auteurs que l'on peut voir à cette occasion, Marjorie?
Oh, c'est varié, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des avant-premières du Festival d'Avignon, notamment, des spectacles que vous pourrez découvrir là-bas, comme Madame Ming, d'après Eric Emmanuel Schmitt, Fantasio, Le Temps des Secrets de Marcel Pagnol. Les spectateurs s'approprient ces propositions et n'hésitent pas à donner envie à nos auditeurs d'y aller.
Ça ne se limite pas à Molière. Surtout pas.
Surtout pas, carrément.
Ah non, carrément. D'ailleurs, puisqu'en fait, ça va passer à la radio, il faut venir le 17 ou le 18 juin, soit au Temple, qui se trouve rue Carnot, soit à Saint-Jean-de-Luz. Il y a un magnifique concert de jazz et de comédie musicale qui s'appelle 100% Sinatra par la chorale White Spirit. Je vous invite à y venir tous.
L'invitation est donc lancée, on ne va pas manquer de suivre évidemment tous ces conseils. Le Mamelière, c'est donc à Versailles tous les jours du mois de juin. Merci Marjorie.
Tu es arrivée de Chine un matin, à Paris, pendu, panda, tu te souviens. Avec deux taches pour tes yeux, tu fis battre mon cœur. Ton regard fut si merveilleux que j'en pleure.
C'est plus du Jean-Baptiste Lully, on est d'accord.
Non, non, mais on a un Jean-François Cadet qui danse en
voilà,
studio.
Absolument, sur Pandi Panda, on replonge évidemment tous en enfance avec vous, Fanny. Bon, c'est pas récent ça, évidemment, elle date de quand cette chanson? Moi, je m'en souviens. Hein.
1984,
voilà.
Alors,
bon,
autant vous
j'avais
dire.
J'avais 7 ans.
Ouais. J'avais 7 ans, voilà, on était deux à ne pas être nés à ce moment-là.
Ah bah mais merci de le rappeler, c'est toujours
sympathique. Je le rappelle pour poser les bases. Mais évidemment, la chanteuse, on la connaît, c'est
Chantal Goya.
Chantal Goya. Elle-même. Et figurez-vous que l'idole des jeunes, eh bien, elle fête aujourd'hui même son anniversaire. Alors je lui ai demandé ce que ça faisait d'avoir 80 ans.
Eh ben, rien du tout. Non, je suis spéciale. Moi, je ne fête jamais les anniversaires, ni les anniversaires de mariage, ni rien. Mais j'ai toujours été élevée par une famille qui avançait. On n'était pas prisonniers des horloges. Déjà, je suis née au Vietnam le 10 juin, mais le 10 juin avec le décalage horaire, je ne sais pas ce que ça fait en France. Et je ne fête rien, je ne veux pas fêter ça parce que je ne veux pas que ce soit un truc bizarre sur ma tête. Et j'ai toujours fonctionné, moi, avec mon instinct, avec l'amour du public qui me le donnait, mais je n'ai pas fonctionné avec les âges ou le temps. Tout ça, ça me passe comme ma grand-mère, on s'en fiche complètement, on avance.
Et c'est comme ça qu'elle fonctionne depuis toujours. Alors, tout a commencé pour Chantal Goya par de la photo, puis elle a fait du cinéma avec Jean-Luc Godard.
Et
elle
oui.
a joué dans Masculin Féminin, c'était en 1966.
Et donc la musique est arrivée après.
Oui, et c'était pas prévu, mais un coup de fil va tout changer. Ce jour-là, Brigitte Bardot doit participer à une émission de Carlos, mais elle est malade.
Marie-Thie Carpentier m'a appelée, m'a dit « Chantal, si tu pouvais remplacer Brigitte, je ne remplace pas Brigitte Bardot, c'est pas possible ». Et là-dessus, elle m'a dit « Oui, mais demande à Jean-Jacques de t'écrire une chanson, il me manque 6 minutes, s'il te plaît, rends-moi service ». Et ma vie a toujours été comme ça, avec des circonstances invraisemblables. Donc j'ai chanté « Adieu les jolis foulards » et c'était le début de toute cette belle histoire avec les enfants.
Adieu les jolis foulards, adieu tous les madrasses, si ce n'est qu'un au revoir, on se retrouvera. J'emporterai dans mon cœur un peu de ce pays, vous resterez dans nos cœurs, mademoiselle aussi. Adieu les jolis foulards.
Adieu les jolis foulards, ça vous donne envie de chanter. Hein.
Oh bah au moins tout le monde.
C'était le premier succès de Chantal Goya, figurez-vous, Fanny.
Oui, chanson écrite et composée, on l'a entendu, par son mari Jean-Jacques Debout. Et c'était le début d'une longue série sous les traits d'un personnage enfantin.
Je me suis dit que comment je ne vais pas faire le tour de chant, c'est pas possible, j'ai jamais voulu être chanteuse, je voulais être journaliste, grand reporter, mais pas être chanteuse. Et là-dessus, il m'a dit, mais moi j'ai l'idée d'une jeune fille qui habite dans une forêt avec des animaux, avec des enfants autour d'elle, un petit peu ce que tu aimes dans la vie, puisque tu t'es occupée de tes frères et sœurs toute petite, toute jeune à 12 ans. Donc j'ai l'idée de créer un personnage que je vais appeler Marie-Rose. C'est comme ça que tout a commencé, avec la forêt magique en 77. J'ai fait l'Olympia normalement pour quelques jours et je suis restée 3 mois. C'était archi complet. Alors on faisait 11h du matin, 14h et 17h. Vous imaginez, 6000 personnes. Et là, Bruno Cocatrix a dit à Jean-Jacques, elle vient d'inventer le music hall pour enfants, écrit des grands spectacles, ça sera de la folie.
C'est
ben voilà.
Marie-Rose, c'est donc le personnage de Chantal Goya, mais elle est entourée au fil des ans de tout un bestiaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de certains.
Bah, il y a Félix le chat, évidemment, qui ne devait pas la rattraper. Il y a Babar. évidemment.
Baba aussi.
Bah oui, bah là, un petit coucou à Céleste une nouvelle fois.
Oh.
Il y a Booba aussi, le petit ourson.
Exactement.
Rien à voir avec le rappeur.
La chanson la plus triste de l'enfance.
Oui, absolument.
Il y avait un loup aussi. Donc tout un tas d'animaux, des humains aussi avec Bécassine, Guignol.
Ah oui, Bécassine, oui. C'est sa cousine, oui.
C'est sa cousine. Oui. Et ces personnages, eh bien, ils continuent de vivre sur scène. Les décors, les costumes, les mélodies, rien n'a changé. Et Marie-Rose est restée la même.
Toujours pareil, intrépide, courant partout. Moi, je n'ai jamais baissé les bras, bien au contraire. C'est mon moteur. Quand je ne chante pas, je sais quand même mettre de côté, faire reposer cette Marie-Rose parce qu'il faut qu'elle se repose. Et puis, c'est l'autre qui prend le relais. Je ne sais pas me reposer. Moi-même, à la campagne, je suis sur un transat. Au bout de 10 minutes, je dis à Jean-Jacques, je vais aller voir là-bas au fond. Je vais aller voir si, je vais aller faire le linge, je vais aller sécher, il fait beau. Tout de suite, j'ai des idées. Je ne peux pas rester sans rien faire. Ce n'est pas possible.
Et vous arrivez à avoir la même énergie. C'est pas usant quand même.
Mais non, ça ne m'use pas. Vous voyez, je suis tombée, je me suis fracturée le poignet. Ben, j'avance quand même. Ce n'est pas grave. C'est un détail de la vie. Et surtout, ça me permet de dire, ben, le mauvais s'en va, le bon va rester.
Et le bon, ben, ce sont tous ces souvenirs créés avec un public quand même particulier, les enfants. Elle a tout de suite accroché avec eux.
Parce que les enfants, ils m'ont reconnue tout de suite comme un des leurs. J'ai la même voix qu'eux. J'étais proche d'eux. J'ai cet instinct très proche des enfants de raconter des belles histoires, de savoir les endormir le soir quand ils n'arrivent pas à dormir ou quand ils ne peuvent pas manger. Mes amis m'appelaient, disaient « Oh là là, elle ne veut pas manger, viens lui donner. » Moi, j'arrivais et puis c'était en 3 minutes, c'était réglé parce que je racontais une belle histoire où je faisais une purée avec un lac dedans. J'adore plein de trucs.
Une cuillère pour maman, pour papa qui attend.
Évidemment, ces enfants qui ne voulaient pas finir leur purée, ils ont fini par grandir.
Ouais.
Bon, ça plaît toujours aujourd'hui, Chantal Goya, Fanny ?
Oui, bah, son univers naïf, il a pu être moqué à une période, mais aujourd'hui, elle fait toujours ça le comble.
Parce que votre génération m'a connue, enfin votre génération, vous m'avez connue quand vous étiez petit, et aujourd'hui, ce sont les parents qui font écouter mes chansons aux enfants. Je vous dis que pour moi, la plus belle radio, c'est Radio Papa Maman. Mais ce sont des chansons intemporelles. Le lapin, c'est la première chanson écologique de France. Tous les gamins ont chanté le lapin et me le chantent encore. Et les mamans et les papas d'aujourd'hui.
Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui.
Folle ambiance ici en studio.
Ah,
ça chante.
Alors Chantal Goya, elle détient le record de représentation au Palais des Congrès. Elle a vendu 40 millions de disques. Elle est aujourd'hui la seule artiste française de sa génération à remplir près de 40 zéniths par an. De quoi accumuler un certain nombre d'anecdotes.
J'avais été un jour à Lourdes chanter. J'ai dit, mais attends, il y a la Sainte Vierge qui est plus importante que moi là-bas. Il y a Sainte Bernadette, il y a tout ça, ça va être énorme. Voilà, pas que le soulier s'est arrêté au milieu. J'ai dit, bah voilà, ça y a une panne d'électricité. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, bah on va faire un jeu au Salut Marie, comme ils savaient tous cette prière. On l'a tous fait, puis ça redémarrait d'un coup. Je riais toute seule. Je dis, bah ça, c'est le comble.
Ouais, c'est extraordinaire, extraordinaire, Chantal Goya. Et puis, cette tournée, c'était pas seulement en France, Fanny, évidemment.
Non, bien sûr, elle a donné notamment des concerts dans plusieurs pays du continent africain.
Oui, bah, j'ai chanté à Libreville, Dakar, Abidjan. Du reste, je les embrasse tous très, très fort, parce que je les ai connus tous petits. À Dakar, à Abidjan, à Libreville, c'était la folie. J'ai eu un public merveilleux et j'ai bougé partout parce que moi, je n'aime pas rester dans mon hôtel, donc j'étais un peu partout. Voilà, ce sont des souvenirs, j'espère y retourner.
Marie-Rose, Marie-Rose, te dire que c'est bon de te revoir. Je vous ai connu encore des enfants. Vous étiez venus avec vos parents. Avec un bouquet de fleurs à la main, et tous vos bisous me faisaient du bien. Vous étiez alors mon tendre public, et tout devenait magique. Un lapin chasseur vous faisait crier dès qu'il était arrivé. Avec toi pour rire avec le bouchard.
Chantal Goya, bon pied, bon oeil, qui fête aujourd'hui ses 80 ans et qui espère donc retourner prochainement en Afrique. En attendant, son spectacle Le Soulier qui vole sera donc à l'affiche du Palais des Congrès de Paris les 8 et 9 octobre prochains. Ensuite, une tournée est prévue à partir du 23 octobre avec Chantal Goya sur la route enchantée. Merci beaucoup Fanny, merci aussi à... Oui, absolument, merci beaucoup Fanny. Merci aussi à Marjorie et Sébastien. Bon week-end à tous. Lundi, c'est vous qui serez à ma place, Fanny, avec...
Avec Annette Messager, célèbre plasticienne qui a une exposition en ce moment dans le Nord, à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Ça s'appelle Comme Si.
Rendez-vous est pris.
Tous les jours.